Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre. 2 heures pour découvrir l'histoire sous un angle rieur en compagnie de ce que ma grand-mère luxembourgeoise aurait qualifié de fiefiloustique. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à votre grand-mère, bonjour à tous, bienvenue.
Paix à son âme, oui.
Oui, paix à son âme, je m'en doutais un peu. Bienvenue dans l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Chaque après-midi, 3 personnages très différents, mais qui ont toujours un point commun aujourd'hui, celui d'avoir fait revivre Marie-Antoinette. Et ça, ça fait beaucoup de bien à Stéphane, je le sens. Hein, Stéphane.
Ah oui. Ah oui, vous pouvez pas savoir. Lui est né comme la reine in Österreich, en Autriche. Lui aussi a dû fuir son pays et ne jamais y revenir. Stefan Zweig a beaucoup écrit et a consacré une riche biographie à Marie-Antoinette. Je vous raconte la vie de ce grand écrivain, le plus lu de son temps, et même depuis lors. Marie-Antoinette, Jacques Demy lui a aussi redonné vie dans un film, pas le plus réussi dans une filmographie, qui comprend de nombreux chefs-d'œuvre au style si singulier, Peau d'âne, Les parapluies de Cherbourg, ou Les demoiselles de Rochefort.
Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mis face à la...
Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait d'une fille de... qui a su se faire un prénom, notamment en portant à l'écran, elle aussi, l'histoire de Marie-Antoinette.
Oui, nom Coppola, prénom Sofia. Si son Marie-Antoinette n'est pas le plus véridique, historiquement parlant, c'est l'un des plus réjouissants du point de vue cinématographique. Quand je dis qu'il n'est pas le plus précis, historiquement parlant, attention Stéphane, hein, elle meurt quand même à la fin.
Oh non !
Ta fille, et je crois que nous allons pousser le vice jusqu'à parler aujourd'hui de celui qui a contribué à ce qu'on coupe la tête de la reine.
Effectivement, avec celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde.
Et oui, bonjour.
J'ai pas cité votre nom.
Oh, mais peu importe.
Mais parce qu'on le sait. En fait, la France
c'est Clémentine
Portier-Castelnac.
Oui, je vous interromps, mais moi, vous avez compris que mon ambition n'est pas de vous faire plaisir, Stéphane, mais au contraire de vous faire souffrir. Et donc, tandis que vous allez évoquer ceux qui ont fait revivre Marie-Antoinette, et oui, en effet, moi, je vais évoquer celui qui l'a fait mourir, Antoine Fouquier-Tinville, qui était l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, et c'est bien lui qui a eu sa tête. Oui. Sinistre personnage.
Ah bon, je crois que c'est un de vos amis.
Oui, aussi.
Ah, tiens donc.
Ah, me voilà comparé à Fouquier-Tinville maintenant.
Elle démarre bien cette émission.
Oui, oui.
Alors, mourir sur l'échafaud, mourir guillotiné, oui, mais en sentant bon.
Oui,
qui a inventé le déodorant? C'est la mission qu'on a fixée à David Castello-Lopez, qui est pile poil dans le thème de l'émission.
Tout à fait, cet art de la transition, si bien. Oui, le déodorant, comment est-ce qu'on a fait en sorte qu'on sente moins mauvais qu'avant?
Ça a sauvé nos couples.
Mais attendez, mais cela dit, c'est tout à fait pertinent cette histoire, parce que vous savez que au musée Carnavalet, on conserve dans la reconstitution de la chambre de la prison du temple où était Marie-Antoinette un petit flacon que l'on n'ouvre pas, qui est scellé et qui contient l'essence de parfum qu'utilisait Marie-Antoinette, qu'on a essayé de reconstituer de façon sans doute un peu plate, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'essence naturelle, mais on connaît le parfum de Marie-Antoinette, c'est essentiel.
Alors là, c'est le parfum, c'est-à-dire c'est une odeur qui recouvre la vôtre. Là, je vais parler de comment enlever ces odeurs propres.
Alors le déodorant n'existait pas sous
Marie-Antoinette.
Propres,
d'ailleurs.
Oui.
Parce que ces odeurs propres sentent sales.
Oh, oui. Ça c'est sûr Stéphane, j'ai l'impression que vous avez de gros dossiers là-dessus.
Non, mais
certains amis à vous visiblement n'ont pas
très sensible
utilisé le bon déodorant.
C'est vrai, il y a des gens plus sensibles que d'autres.
Oui.
On a l'impression parfois dans le métro, il y a des gens qui ne sont pas sensibles du tout.
Ils ont eu le Covid, ils ne sentent plus rien.
Oui, c'est ça,
c'est
peut-être.
Et puis nous passerons du déodorant Stéphane à un autre sujet vraiment intéressant, les pâtes cacio et pépé. Avec vous Olivier Pouls.
Bah oui, là j'ai J'espère que vous n'allez pas en enlever l'odeur, parce que c'est quand même délicieux l'odeur de ces pâtes au fromage et au poivre.
Olivier, je vous dis tout de suite un scoop, je vous donne un petit scoop. Stéphane Bern, vu comme il me regarde, ne connaît pas les
Moi
pâtes cacio et pépé. Clémentine non plus, expliquez-nous vite ce que c'est.
Pépé, c'est du poivre.
Alors c'est un grand incontournable de la cuisine italienne et de la cuisine romaine. Un plat simplissime à réaliser qui ne contient que 3 ingrédients, mais qu'il faut savoir doser et mixer de manière très subtile, des pâtes, du fromage et du poivre.
C'est tout, point barre, et ça peut être délicieux ou alors complètement raté.
Oui,
c'est ça.
J'espère que votre recette sera réussie, mon cher Olivier Pouls. Enfin, aux alentours de 5h-10, ce sera pour Stéphane le moment de monter à l'échafaud, on peut le dire, et d'affronter avec dignité le sort qui l'attend, voire sa réputation d'érudition guillotinée. par la mécanique implacable du quiz. Ne manquez pas le spectacle, ça s'appelle Burn to be Alive. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour à avoir redonné vie à Marie-Antoinette, un certain Stéphane Zweig.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
En 1776 et durant le carnaval de 1777, l'ivresse de plaisir de Marie-Antoinette atteint subitement son point culminant. La reine mondaine ne manque pas un bal de l'opéra jamais. Elle ne rentre chez elle avant l'aube, elle évite toujours le lit conjugal. Celui qui connaît si bien la reine de France et ses déboires les plus intimes, c'est, vous l'avez compris, le grand écrivain Stefan Zweig. Dans une longue biographie qu'il consacre à l'épouse de Louis XVI, Stefan Zweig en livre une vision très personnelle, intime et romancée. Il ne l'a pourtant pas si bien connue, voire pas connue du tout. Zweig est né en 1881, près d'un siècle après la mort sur l'échafaud de Marie-Antoinette. Ils ont néanmoins un point commun, celui d'être tous les deux autrichiens et même plus exactement viennois. C'est dans la capitale du grand et puissant empire Habsbourg que le jeune Stéphane grandit dans cette effervescence culturelle de la Vienne 1900. Celle des cafés où l'on s'arrache les journaux du monde entier et où se côtoient intellectuels reconnus et écrivains en herbe. Le jeune homme est bien né, issu d'une famille de riches industriels juifs. Il peut se consacrer à ses passions, la lecture, la littérature, la poésie. Stefan Zweig écrit lui-même et son talent ne tarde pas à être remarqué. Ses premiers textes sont imprimés dès les premières années 1900 dans des publications viennoises. Curieux et désireux d'échapper à son milieu bourgeois et conservateur, Stefan Zweig voyage à Berlin, Paris, en Belgique, en Italie et même jusqu'en Inde et aux États-Unis. En 1904, il obtient un doctorat de philosophie et il continue par ailleurs à écrire toujours des nouvelles et même du théâtre et à traduire les poèmes d'Émile Verhaeren et d'un certain Verlaine. À l'été 1914, Stéphane épouse Frédérique, rencontré quelques années plus tôt. Mais la guerre est là. Zweig, pacifiste convaincu, est atterré par ce qu'il voit. Avec l'écrivain français Romain Rolland, il tente de convaincre les intellectuels de France et d'Allemagne de la nécessité de s'engager contre le conflit. Sans succès. L'âge d'or de la sécurité, comme il nomme le monde de son enfance et de sa jeunesse, est mort. Et il emporte avec lui les restes de l'Empire austro-hongrois, démantelé en 1918. Dans les années 20, Stefan Zweig rencontre la célébrité grâce à ses nouvelles. Amok, 24 heures de la vie d'une femme, la confusion des sentiments. L'écrivain est partout, il donne des conférences, il participe aux soirées mondaines, il traduit les œuvres qu'il admire et se lance dans les biographies de personnages historiques. Marie-Antoinette paraît en 1932. C'est également un succès traduit en français dès l'année suivante. Mais encore une fois, la situation politique en Europe vient perturber la vie et le travail de l'écrivain. Zweig subit de plein fouet la montée du nazisme et de l'antisémitisme. Le 10 mai 1933, lors d'un auto-da-fé gigantesque orchestré par Goebbels sur toutes les places de toutes les villes allemandes, les nazis brûlent les livres des opposants et des écrivains juifs. Ces livres sont jetés aux flammes des bûchers. Pour un humaniste qui a dédié sa vie à la connaissance, c'est un drame absolu. En février 1934, alors que l'Europe cède de plus en plus aux sirènes fascistes, Zweig fait ses bagages et quitte son pays. Comme Marie-Antoinette, il doit tout laisser derrière lui. Comme Marie-Antoinette, il n'y reviendra jamais. L'écrivain trouve d'abord refuge à Londres. Sa femme, Frédérique, ne le suit pas. Zweig entame une relation avec sa secrétaire, Lotte, qui deviendra sa deuxième épouse. En Angleterre, il se lance dans une nouvelle biographie, celle de Marie Stuart, brièvement reine de France, au destin aussi tragique que celui de Marie-Antoinette. Qu'est-ce qui pousse un écrivain renommé à se passionner pour ce genre littéraire ? Zweig, passionné d'histoire, répond « C'est presque toujours un destin secret qui règle le sort des choses visibles et publiques. Presque tous les événements mondiaux sont le reflet de conflits intimes. Un des grands secrets de l'histoire est de donner à des faits intimes des conséquences incalculables. » Comme dans ses nouvelles, l'analyse psychologique que Zweig livre des personnalités historiques qu'il étudie est très fine. Comme dans la fiction, ce sont les thèmes de la passion et du secret qui l'animent. Romain Rolland le qualifie de « chasseur d'âmes ». Zweig veut en sonder les profondeurs pour tenter de cerner l'inconscient. Rien d'étonnant pour quelqu'un qui a bien connu Sigmund Freud. Le grand psychanalyste qui admire en cela les écrivains reconnaît d'ailleurs au genre romanesque ce pouvoir d'approfondir la connaissance de l'esprit. La compréhension des autres atteint chez vous la perfection, écrit Freud à Stefan Zweig. La biographie de Marie-Antoinette est considérée comme une grande œuvre littéraire parce qu'elle perce les secrets de la vie de la grande reine avec beaucoup de sensibilité. De la consommation de son amour passionnel pour le beau comte de Fersen à son attitude pleine de dignité pendant la fuite à Varennes. La tiède soirée d'été est si belle, la reine ouvre elle-même la porte et regarde au dehors. Pas un instant elle ne perd son assurance dans ces instants décisifs. Et tant pis si la rigueur historique n'est pas toujours de mise. Zweig écrit sur ceux qu'il aime. Magellan et Montaigne font suite aux reines de France et à Joseph Fouché, homme politique de la Révolution et de l'Empire, considéré comme son chef-d'œuvre du genre. Pendant ce temps, la situation en Europe se détériore. La guerre d'Espagne éclate d'abord, puis ce que Zweig avait tant redouté, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938. À l'été 1940, Zweig doit à nouveau fuir, et plus loin cette fois. Après une première halte à Londres, Stefan Zweig prend la direction de l'Amérique, mais il est profondément affecté par la situation du monde. L'écrivain échoue d'abord dans la banlieue de New York, où il passe quelques mois avec sa nouvelle épouse Lotte. En août 1941, ils s'installent tous les deux au Brésil, dans une petite maison sur les hauteurs de Petropolis, à une soixantaine de kilomètres de Rio. Physiquement, l'écrivain est hors de danger, mais moralement, il est extrêmement éprouvé par cet exil. Zweig a souffert toute sa vie de troubles psychologiques, de mélancolie et d'épisodes dépressifs. Le temps qui passe l'angoisse profondément. Il a bientôt 60 ans, ne supporte pas les anniversaires, a fortiori quand ceux-ci marquent l'entrée dans une nouvelle décennie. Ces jours-là, Stefan Zweig préfère fuir de chez lui pour échapper aux cartes de vœux de ses proches et de ses admirateurs. Mais le traumatisme qui l'affecte à l'heure où le monde se déchire est évidemment plus profond. Zweig tente de travailler, mais il n'y parvient pas. Il laisse inachevée une biographie de Balzac. Lotte souffre de difficultés respiratoires et sa santé précaire pèse sur son couple. Alors, Stefan Zweig entreprend de rassembler ses notes, ses écrits rédigés dès les premiers jours de son exil pour construire sa toute dernière œuvre, comme un testament. Et ce qu'il lègue, c'est le souvenir d'une Europe cultivée, croyant dur comme fer en un progrès humain et scientifique, avant que la boucherie de 1914 ne vienne stopper net les espoirs d'un avenir radieux. La guerre, c'est l'échec de cette civilisation européenne en laquelle Zweig croyait tant. Entre les lignes de ce qui restera comme son dernier ouvrage et l'histoire de sa vie, le monde d'hier, l'ampleur de sa détresse transparaît. J'ai grandi à Vienne et j'ai dû la quitter comme un criminel. Je n'ai plus de place nulle part, étranger partout. Totalement désespéré face à la brutalité du monde, Stefan Zweig met fin à ses jours avec sa femme, le 23 février 1942, en avalant du poison. La veille, l'auteur a envoyé son dernier manuscrit à son éditeur. En introduction du dernier chapitre de son ouvrage consacré à Marie-Antoinette, Zweig écrivait « Il se passe trop de choses à Paris durant ces mois-là pour qu'on puisse se souvenir d'une mort isolée. » Il s'est passé encore plus de choses en Europe à son époque. Pourtant, personne n'a oublié le discours et l'œuvre de Stefan Zweig, brillant humaniste, pacifiste et antinationaliste convaincu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Stefan Zweig, nous sommes avec l'écrivain Laurent Sexic. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laurent Sexic. Vous avez beaucoup publié sur Stefan Zweig et vous avez préfacé dernièrement ses écrits politiques inédits dans « Pas de défaite pour l'esprit libre » paru chez Albin Michel. On connaît Zweig, le novelliste, on connaît moins le biographe. Est-ce qu'ils sont très différents? Et vous, qui connaissez bien l'œuvre de Zweig, lequel vous préférez?
Alors, ils sont à la fois différents, c'est-à-dire qu'on a l'impression assez incroyable, assez unique, assez singulière, qu'on ressent peut-être avec Romain Gary, de deux écrivains en un. C'est-à-dire que Romain Gary, on connaît La vie devant soi et La promesse de l'aube, qui n'ont à la fois rien de commun et tout en commun. Pour Zweig, c'est encore différent. Il a deux styles totalement opposés, et qui se rejoignent. Il y a le style, le murmure plaintif de l'être d'une inconnue, de 24 heures de la vie d'une femme, où il va chercher au plus profond, dans les tréfonds de l'âme humaine, vous l'avez dit d'ailleurs, et cette psychologie féminine qu'on lui attribue, d'ailleurs cette faculté unique de se mettre dans la peau, à la place d'êtres dont on dirait qu'ils sont quasiment à l'opposé d'eux-mêmes, de jeunes femmes, de vieilles dames, de postiers, de fous comme dans Amok, d'un joueur d'échecs, comme dans ce livre sublime, Le joueur d'échecs. Et là, ce sont des nouvelles extrêmement concises, extrêmement précises, où il traque le mot, où il chasse le moindre détail qui alourdirait le texte. Et puis, il y a ses biographies, et là, Marie-Antoinette, Érasme, Marie Stuart, où il se laisse aller à une forme de lyrisme parfois totalement débridé, mais toujours malgré tout maîtrisé, et où la phrase est beaucoup plus longue, le détail n'est pas scruté au mot près, et où il va embrasser l'ampleur d'un destin. En réalité, ces deux ouvrages, la petite nouvelle intimiste et cette vaste fresque que peut être Marie-Antoinette ou Marie Stuart, ce sont les mêmes dans la mesure où pour chacun de ces livres, il va se mettre dans la peau de ces personnages, il va se penser par leur esprit, il va parler par leur bouche, et c'est cette empathie absolue, et cette intelligence avec à la fois le personnage et l'histoire, qui vont faire la communion entre ces deux œuvres. L'intelligence, pour moi, Zweig, c'est un peu l'intelligence absolue. On parle beaucoup pour les musiciens d'oreille absolue. Zweig, c'est pas forcément le plus grand génie littéraire. C'est pas Proust, c'est pas Goethe, mais il a cette faculté de raisonner et de vibrer à travers le monde. Sans doute parce qu'il est à la fois le chantre et la victime de l'épopée du XXe siècle. Et ça, c'est tout à fait unique pour un auteur. C'est ce qui fait qu'on l'aime et qu'on l'admire.
Je pense à nos auditeurs. Si parmi nos auditeurs, certains n'ont jamais lu Stefan Zweig, il y a quelque chose à leur dire quand même s'ils aiment l'histoire. C'est que c'est aussi une porte d'accès vers l'histoire qui est fabuleuse. Parce que comme il rentre dans l'intimité des personnages, il nous les fait vivre de manière très incarnée. C'est toujours très bien écrit. C'est toujours passionnant. Enfin, les grandes heures de l'humanité. Il y a plein de livres de Stefan Zweig qui sont une porte d'accès à l'histoire.
Et n'importe quelle petite librairie a tout Stefan Zweig en livre de poche.
Exactement. Ils sont
donc ça, je le dis parce que. Et même, voilà, si vous lisez qu'un livre, faut lire du Stefan Zweig. Ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que le destin est tragique de Marie-Antoinette. Il s'est identifié à elle. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on est à la fois d'abord glorifié, sanctifié, puis ensuite conspué et lâché. Il y a quelque chose qui devait le toucher.
Ah, absolument. Et puis, de toute façon, il ne parvenait pas à écrire sur quelqu'un d'autre que lui-même, quelque part. Il y a, chez Marie-Antoinette, dans son destin, qui préfigure quelque part le destin de Zweig, sauf qu'il y a en plus ce poids de l'histoire encore plus écrasant. Il y a cette attirance parce qu'elle vient d'Autriche, vous l'avez dit, parce qu'elle vient de Vienne, parce qu'elle incarne aussi la beauté, et cette particularité qu'il y a dans ce livre-là de Marie-Antoinette, c'est que c'est la seule biographie à laquelle il s'est attaché et qui n'est pas une héroïne à la base tragique. C'est-à-dire que dans la préface de ce livre, il le dit, c'est le seul personnage qui était destiné à avoir un destin ordinaire.
Exactement.
Et c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que quand il prend Érasme, quand il prend Nietzsche, quand il prend Napoléon, ce sont des personnages qui sont traversés par l'histoire et qui vont la porter. Elle, c'est une héroïne ordinaire, qui était vouée à avoir une vie ordinaire et que l'histoire a balayé. Ce balayement de l'histoire, cette destruction d'un cœur, c'est toute l'œuvre de Stefan Zweig. Et ce qui est très particulier, c'est que ce sera aussi sa vie.
On parle évidemment de Marie-Antoinette et de la biographie que Stefan Zweig lui a consacrée. Est-ce que on a rappelé l'empathie qu'il a quand même pour ce personnage? Est-ce que parfois cette biographie tombe, selon vous, dans la géographie?
Oui, il a du mal à masquer et à cacher l'admiration qu'il lui porte, et donc on tombe parfois dans cette hagiographie, même si en réalité c'est l'histoire d'une femme simple qu'il décrit. Et donc c'est en réalité l'admiration et la compassion qu'il éprouve pour le destin des victimes.
Il aurait pu l'appeler un cœur simple si c'était pas pris.
Voilà, il aurait pu l'appeler un cœur simple.
Mais vous faites d'ailleurs le parallèle, Laurent, avec l'être d'une inconnue. C'est-à-dire une femme qui se donne entièrement à son devoir, mais qui va le payer cher et qui va le payer de sa vie.
Oui, ce qui est étonnant dans l'être d'une inconnue, c'est que si vous recherchez un portrait de Zweig, un portrait de l'intime Zweig, on ne trouvera pas dans cette biographie de 500 pages qui est Le Monde d'hier, où il parle très peu de lui, où simplement il regarde le monde et il le décrit merveilleusement. Mais dans L'être d'une inconnue, cette nouvelle, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire d'un écrivain d'une quarantaine d'années qui reçoit une lettre. À la base, c'est quelque chose de tout à fait
ça
simple.
Ça arrive vous-même, et vous en recevez beaucoup.
Ça arrive à tout le monde.
D'inconnu.
Et là, simplement, il va réaliser qu'une jeune femme qu'il a connue des années auparavant, chaque année, lui envoyait des fleurs. Il ne savait pas d'où venaient ces fleurs, et que cette femme vient de perdre son enfant et va se donner la mort. On rentre dans le tragique immédiatement, mais on rentre dans le tragique par quelque chose qui est la patte de Zweig aussi, qu'on retrouve moins évidemment dans Marie-Antoinette, qui est le récit enchâssé. Mmh. C'est-à-dire que pour raconter une histoire, il ne va pas raconter l'histoire de cette femme, il va raconter l'histoire à travers les yeux de celui qui va recevoir cette lettre. Mmh. Si l'on cherche le Zweig, on le trouve dans ce personnage-là, décrit en quelques lignes au départ de la nouvelle, et dans le portrait que va brosser cette jeune femme, l'être d'une inconnue, farouchement éprise de cet écrivain.
Dans les derniers jours de Stefan Zweig, vous écrivez « Il s'était voulu le biographe des riches heures de l'humanité, il ne parvenait pas à se faire le script d'une époque barbare. Son suicide, c'est aussi celui d'un écrivain finalement incapable d'écrire, de penser la barbarie ?»
Alors, de penser la barbarie, de la comprendre en réalité, c'est-à-dire de décrire la barbarie, il a écrite dans certains ouvrages. En réalité, le mal reste pour lui un mystère impénétrable, un mystère qu'il ne parvient pas à comprendre, qu'il ne parviendra sans doute pas à combattre d'ailleurs, et c'est pourquoi ce suicide a été vu comme une défaite de l'esprit, a été un événement absolu, la mort de cet homme dans les confins du Brésil, perdu dans cette petite ville de Petropolis après un exil de la terre entière, a été un véritable événement qui a fait la une du New York Times, alors que, vous l'avez dit tout à l'heure, d'autres événements tellement plus importants se produisaient. C'est sans doute qu'il incarnait une figure humaniste et que son suicide a été vu comme une forme de lâcheté. Ce qui est terrible, parce qu'en réalité, on confondait l'acte d'un lâche et le geste d'un désespéré. C'est un désespéré qui a tout perdu.
Qui voit son monde disparaître. Et vous êtes allé dans sa maison à Petropolis.
Oui,
c'est assez émouvant de voir cette maison.
Bah, racontez-nous, parce que moi, j'y suis pas allé.
Et c'est dans la périphérie. Aujourd'hui, c'est la périphérie du centre de Petropolis. C'est une maison incroyable, enfin, toute simple, en fait, très, très, avec un petit jardin. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un coopérant autrichien qui garde la maison et qui la fait vivre avec un musée qui raconte la vie de Zweig. Et c'est assez troublant parce que on se dit que l'Autriche continue, et c'est le lien avec notre Marie-Antoinette au fond. L'une a été tuée parce qu'elle était reine, et l'autre s'est donné la mort parce que il sentait que, comme juif et comme membre de cette Europe, cette Mittel Europa, il n'avait plus sa place dans le monde.
Absolument, il voyait, si vous voulez, le lendemain de la chute de Singapour, qui est un événement qu'on a totalement oublié, mais qui annonçait la réunification des deux armées japonaises et allemandes, donc la fin de la guerre. Il se donne la mort parce qu'il est persuadé, et il n'a pas entièrement tort quand on relit l'histoire, que les Allemands vont venir jusqu'au Brésil. Et lui, qu'on peut comparer, il y a toujours cette phrase de Job qui dit « Tout lui a été donné, tout lui a été repris ». Et c'est un peu ça. Zweig, c'est un peu ça aussi, Marie-Antoinette d'ailleurs, il le note dans sa préface. Il a connu les plus riches heures de l'humanité, il en a été l'incarnation. Il habitait à Vienne, près de Salzbourg, dans un superbe château du Kapuzinerberg, où il recevait l'Europe entière, de Romain Rolland à Freud. Gustave Mahler lui a posé sa main sur son épaule. Il le raconte dans le monde d'hier. Il a tout connu. Et ensuite, il est devenu un exilé, un alien ennemi. Il faut savoir que sur son passeport était noté ce terme d'alien ennemi en Angleterre. C'est-à-dire que en Angleterre, il est considéré comme allemand. En Allemagne, il est considéré comme juif. Au Brésil, il est considéré comme personne. Même si il y a ce livre sur le Brésil qui fait de lui un auteur, mais il reste il a tout perdu, sa famille a été exterminée, il le pressent, tous ses amis ont été massacrés par le nazisme, tous ses livres ont été brûlés, et donc c'est un être dont il ne reste plus rien de tout ce dont il avait rêvé.
En tout cas, il reste vous, Laurent Sexic.
C'est bien essentiel.
Non, mais c'est passionnant parce que vous faites vivre Zweig comme personne. Je rappelle que vous avez préfacé les écrits politiques inédits de Stefan Zweig dans Pas de défaite pour l'esprit libre, paru chez Albin Michel. Merci Laurent Sexic d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec des personnages souvent morts, mais une chroniqueuse bien vivante, Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, alors qu'on réunit des personnages qui ont redonné vie à Marie-Antoinette dans leurs œuvres, vous, au contraire, vous avez choisi de nous parler de celui qui lui a donné la mort. Votre ami Antoine Fouquier-Tinville.
Oui, mon grand copain avec Coffinal. Tous ces messieurs étaient quand même de beaux salopards. Hein. Alors le 10 mars 1793, c'était pas des chics garçons. Hein. Un mois et demi après la mort de Louis XVI, mort le 21 janvier 93, la Convention crée un tribunal révolutionnaire pour mieux protéger la patrie contre les traîtres. Et Antoine Fouquier-Tinville en est nommé accusateur public. Il a 47 ans. C'est enfin la revanche de sa besogneuse vie de clerc. C'est un clerc obscur. Hein. Voilà, c'est beau.
C'est pas mal. Alors, je le précise, oui. Pour ceux qui nous écoutent, ça ne s'écrit pas pareil. C'est R-E-R-C.
Mais c'est beau aussi. Hein. Je suis comme Monsieur Jourdain. Je ne fais pas de la prose sans le savoir, mais des vers. Alors, donc, Fouquier-Tinville nommé accusateur public, il investit la place. Il devient véritablement le moteur du tribunal. Il accueille les juges et les jurés. Il choisit les salles, il fait rédiger les actes d'accusation, c'est lui qui reçoit le bourreau, qui fixe le nombre de charrettes de condamnés. Il est absolument partout, le tribunal va absorber toute sa vie, à tel point d'ailleurs qu'il va finir par s'y installer avec femme et enfants. Comme ça, c'est pratique, hein, il est sur place. Il va devenir le magistrat le plus puissant et le plus redouté de France. 30 millions de Français sont désormais ses justiciables. Tous suspects, tous susceptibles d'être envoyés à la guillotine d'une minute à l'autre, si tel est son bon vouloir. Parce que dans un premier temps, il était censé rendre des comptes au comité de salut public, mais très vite, il en est dispensé. Alors, tout ce qu'il attend, Fouquier-Tinville, c'est un gros coup. Il lui faudrait son procès retentissant. Il est comme un comédien qui attend le rôle de sa vie. Son coup d'éclat, ça pourrait être Marie-Antoinette. Elle est sa pensionnaire depuis le 2 août. Donc, le procès de Marie-Antoinette, les fausses pièces d'accusation, l'abjecte accusation d'inceste notamment, tout ça... C'est ce cher Fouquier-Tinville. Et ce jugement de la reine va inaugurer toute une série de grands procès politiques. Durant 6 mois, le tribunal va servir à Robespierre, en fait, à le débarrasser de tous ceux qui font obstacle à ses ambitions.
Il a tué combien de personnes au total, Fouquier-Tinville?
Près de 2600 avec ses copains, mais je vais y revenir. Oui, pas loin de 2600. Alors, il débarrasse donc Robespierre de tous ses ennemis, avec zèle. Hein. Il considère comme un échec personnel tout retard dans l'exécution des jugements du tribunal. C'en est fini de la justice. Bientôt, à sa demande, l'Assemblée fait disparaître toutes les formalités qui entravent la marche du tribunal. Les témoins, mais à quoi ça sert des témoins? C'est une perte de temps. Il faut aller plus vite. Il faut réduire au minimum les chances d'acquittement. C'est ça l'objectif. Il lui faut des têtes. Alors Robespierre, à sa demande, va prendre un décret. Désormais, dès que les jurés estimeront leur conscience suffisamment éclairée, ils pourront se retirer pour délibérer sans autre forme de procès. Donc, ça va aller vite parce que dès lors, il n'y a plus de déposition, plus d'interrogatoire, plus de plaidoirie. Les accusés n'ont même pas le temps d'ouvrir la bouche que les jurés les ont déjà condamnés à mort. Et on explique que leur conscience est suffisamment éclairée. Bon, ça y est, allez, hop, à la guillotine. Alors, avec ça... Fouquier-Tinville va parvenir à décupler son rendement. De 12 à 15 condamnations à mort par semaine à son arrivée à la création du tribunal, il passe à 354 condamnés à mort par semaine fin avril 94. Il active tout son petit monde. Vous n'êtes point au pas. Il me faut 200 à 250 têtes par semaine. La semaine prochaine, j'en déculoterai 300 à 400. Pour lui, tuer est une insignifiante formalité qu'il est indispensable de remplir.
Mais pourquoi? Il est psychopathe,
mais parce
en fait.
Que, mais non, mais parce
pourquoi,
que, écoutez,
il est... Cette obsession du rendement, ça
parce
n'a aucun
sens. Parce qu'il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il faut des goupillés, des guillotinés, tous les ci-devant, anciens aristocrates, tous ceux qui conspirent contre la République et la nation. Les cachots, à l'époque, sont pleins à craquer. Les dénonciations pleuvent de toute la France et arrivent au comité de salut public. Il y avait une liste de 100 000 suspects. Donc, il y avait du boulot et on les fait remonter jusqu'à Paris. Quand on n'a pas le bon suspect sous la main, on s'en fiche, on en guillotine un autre à sa place. place, un père à la place de son fils, une octogénaire sourde et muette. Oui. La dernière, Madame de Montmorency Laval, qui était la dernière abbesse de Montmartre, elle était sourde et aveugle. Elle avait dans les 90 ans, elle a été guillotinée pour avoir conspiré sourdement et aveuglément contre la République. Il y a deux Madame Biron et une seule condamnée, c'est pas grave, on les déguillotine toutes les deux. Bon, alors vient le 9 Thermidor, chute de Robespierre. Fouquier requiert contre Robespierre en croyant sauver la vie. Il l'envoie à la guillotine. Il l'envoie celui dont Manon réclame la tête. Bon, mais lui, il va être arrêté, bien sûr, mais il va passer 8 mois en détention. Contrairement à ses victimes, lui et ses 24 co-accusés vont avoir droit à un vrai procès. 45 audiences, 419 témoins. Et leur procès, c'est vraiment le procès de la terreur. Et c'est là, Stéphane, vous le demandiez tout à l'heure, on sait à peu près qu'ils ont envoyé ces braves gens, près de 2600 personnes à la guillotine. Aucun remords, aucun souci, aucun souvenir. Fouquier leur présentait la tâche, il l'expédiait en bureaucrate, soucieux d'avoir vite fini. Et voilà quels furent ses derniers mots, écrits à la hâte avant son exécution. « Je n'ai rien à me reprocher. Je me suis toujours conformé aux lois. Je meurs pour ma patrie et sans reproche. Je suis satisfait. Plus tard, on reconnaîtra mon innocence. » Alors, quand il était dans la charrette qu'il menait à la guillotine, sur son passage, les gens lui criaient « Ta conscience est-elle assez éclairée ?» Et en tout cas, tout ça fait irrésistiblement penser à cette phrase de Primo Levi, appliquée à d'autres monstres dans une autre époque. « Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. » Tel fut Fouquier-Tinville, instrument servile de la terreur révolutionnaire.
Merci Clémentine Portier-Kaltenbach pour ce troublant récit.
Sidérant.
Ah oui, vous voyez, hein, quand je la défends, la pauvre Marie-Antoinette.
Oui, voilà, oui, finalement, je vous comprends mieux, Stéphane, je vous comprends mieux. Merci Clémentine. D'une guillotine à l'autre, deux siècles ont passé mais, depuis la terreur, mais les têtes continuent de tomber
la mienne,
grâce
maintenant
à ce jeu pervers qu'on appelle Burn to be Alive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Depuis quelque temps, forcé de reconnaître que Stéphane ne subit plus de branlées systématiques dans le quiz. Il lui arrive même désormais de gagner face à Clémentine qui, fatalement, s'interroge sur ce phénomène atypique. Clémentine qui commence à se demander si Stéphane n'a pas trouvé une martingale, un gris-gris.
Est-ce que c'était pas de l'urine de vierge ou un truc comme ça?
Ah chut, Stéphane ne communique pas sur ce qu'il appelle sa petite tambouille. Jouons à Burn to be Alive. Notre célèbre quiz. Alors Stéphane.
Oui.
Vous ne savez peut-être pas,
non.
Mais sous vos pieds, c'est bien déjà d'admettre comme ça. Tout de suite, vous admettez que vous ne savez pas. C'est beau.
Comment
ça vous rend plus proche des auditeurs.
Bah oui.
Alors, vous ne savez peut-être pas, mais sous vos pieds, quand vous vous baladez dans Paris, il y a le métro. Effectivement, vous ne le saviez pas. Un petit système souterrain dans lequel des petits trains desservent différentes stations.
Oh, comme c'est amusant.
C'est amusant, hein? Mais c'est pas que pour les enfants. En 1914, sur la ligne 13, la station Berlin devient la station Liège en l'honneur de la ville belge qui vient d'être prise par les Allemands. Vrai ou faux? Quand vous arrêtez à Liège, avant, c'était Berlin.
C'est exact, Stéphane.
Alors, je vais vous dire, il se trouve que j'habite à côté.
Vous n'habitez pas loin, c'est vrai.
J'habite pas très loin, je passe souvent par cette station qui, d'ailleurs, est parfois fermée, étrangement. Il y a des stations comme ça qui sont fermé à certaines heures. C'est pas pourquoi. C'est RATP, le mystère. Écoutez, pour vous dire la vérité, je pense que l'histoire me séduit, mais je ne savais pas qu'il y avait une station qui s'appelait Berlin.
Il y a deux stations qui ont été débaptisées.
Oui.
Berlin, en effet, je crois qu'il y en a une qui a été débaptisée aussi, qui est devenue Jaurès par la suite. Évidemment, on va pas au lendemain de la guerre de 14,
il n'est pas question d'avoir Berlin
comme une station de métro.
Non, personne n'aurait voulu habiter là.
Oui. Alors, je dirais vrai, allez.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, même si les points iront à Clémentine, puisque c'est elle qui a donné la réponse. La ligne 13 a été mise en service en février 1911. La station Berlin devient Liège. Et la station Rue d'Allemagne est devenue la station Jaurès. Vous en parliez aussi tout à l'heure sur la ligne 2 et 7. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Mais si vous répondez, Stéphane, le point
bien
ira
sûr,
à vous.
Oui.
Vous pouvez répondre donc, Stéphane. Qui était le plus grand? Attention. Pierre Ier, le grand, ou Adriana Carambeu?
Pierre Ier.
Stéphane, vous n'avez pas été très vif.
Bah, non, parce que je n'ai jamais connu Paris 1er.
Quand on voit ces bottes au musée du Kremlin, c'est extraordinaire. On dirait les bottes de 7 lieues du petit Pousset. Sont de gigantesques bottes qui font... Enfin, moi, je pense qu'elles m'arriveraient quasiment au niveau de la poitrine. Ils mesuraient pas loin de 2 mètres, Pierre Legrand. On voit ses costumes à l'Ermitage aussi. C'est un homme immense.
Vous avez... gagné !
Vous avez gagné. Pierre Ier Legrand était vraiment grand. Tsar, puis premier empereur de Russie, mesurait 2,04 m. Effectivement, il avait des grands panards. Adriana Carambeu, 1,85 m, dont 124 cm de jambes. Oui. Record homologué par le Guinness. Plus grande jambe de top modèle. Le record de la plus longue jambe tout court, c'est 135 cm. Stéphane Bern, troisième question. Attention. Quand le fax a été inventé, la France était encore une monarchie. Vrai ou faux ?
Le fax ?
Le fax, Stéphane, que vous avez bien connu. Vous utilisez toujours des fax encore aujourd'hui, peut-être.
Non, le fax, c'est dans les... c'était au XXe siècle qu'il y avait des fax. Il n'y avait pas
c'était
de fax au XIXe
siècle. Oui, au XXe siècle, il y avait des fax, oui.
Mais pas au XIXe.
Écoutez, j'en sais rien, moi je vous pose une question.
Non, mais
si
non,
la France était encore une monarchie, vrai ou faux ? Vous répondez.
Mais non.
C'est votre réponse.
Oui. Alors là, Stéphane, mais ça va être un truc qui n'a rien à voir avec un fax, mais qu'est-ce que ça peut être ?
Ah,
qu'est-ce que ça
les
pourrait
fax
être
qu'on envoie ? Est-ce que c'est les fax qu'on envoie vous mettez une feuille dans une...
Si ça se trouve, ça va être un fax, fax et S.
C'est le fax tel que vous le connaissez.
Tel que je le connais aujourd'hui.
Oui, tel que vous l'utilisez encore aujourd'hui. Alors que je vous dis, un mail, ça va plus vite.
Mais oui, je sais, mais j'aime bien envoyer des fax. Eh ben non, la monarchie était terminée elle s'est terminée en 1848.
La monarchie s'est terminée en 1848.
Oui. Après, on a eu l'Empire, une autre forme de monarchie, ce compte Empire. C'est terminé en 1870.
Mais en tout cas, nous n'avions pas de fax.
Bah, écoutez, non. A priori, le fax,
là,
c'est
il va y avoir une entourloupe, Stéphane, vous pouvez être sûr.
S'il y a une entourloupe...
Une autoroute, non. L'autoroute n'existait pas encore. Il n'y avait même pas des nationales.
Eh bien, en tout cas, ça sera pervers de votre part.
Et donc, votre réponse est...
Non, ils n'y avaient pas.
Vous avez...
C'est terrible parce que vous saviez que vous alliez vers la défaite, mais vous
qu'est-ce y êtes allé que quand c'est même. Que cette histoire
oui, mais parce que c'est pas une défaite morale, voyez-vous. Vous me dites le fax tel que vous le connaissez aujourd'hui.
Je suis désolé, Stéphane. Apprenez-le. Le fax est inventé en 1842. Soit 6 ans avant la fin de la monarchie, breveté l'année suivante, c'est Alexander Blaine qui arrive à transmettre un document écrit par le réseau télégraphique. En France, Louis-Philippe Ier, le dernier roi de France, a régné jusqu'en 1848. Ça, vous le saviez, mais ce n'était pas la question.
Mais est-ce que ça s'appelle un fax ? Ça ne s'appelle pas un fax.
Ça a été breveté, ça s'appelle le fax. Hein. C'est lui qui a inventé cette appellation.
Extraordinaire. Bravo.
Vous me l'avez coupé.
Là, vraiment, vraiment magnifique.
La langue.
Bien sûr. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Est-ce que Greta Garbo et Ava Gardner ont pu voir un épisode des Simpsons ? Je sais que vous adorez les Simpsons. C'est une question vraiment très pointue.
Oui. Moi, je pense, parce qu'elles sont mortes il n'y a pas si longtemps. Je me souviens très bien de la mort de Greta Garbo.
C'était il y a combien de temps, Stéphane ? Il y a au moins 20, il y a au moins 30 ans.
À ce moment-là, Massimo Gardi a raconté comment il l'avait eu, etc.
C'est vrai ?
Ouais.
Oui, mais enfin, Stéphane, ça a au moins 25 à 30 ans, non ?
Non, j'étais un adulte consentant, déjà.
À la mort de Greta Garbo ? Ava Gardner,
il avait consenti quelque
Ava
chose.
Ava Gardner, est-ce qu'elle a pu Moi, je dirais que ça doit se jouer. C'est comme d'habitude dans un mouchoir de poche. Oui. Elle va être morte en deux. Les Simpsons, ça a quoi ? Ça a pas 20 ans, les Simpsons. Ça a 15 ans, non ?
Oh, si, ça.
Tu crois que ça a 20 ans ?
Oui. Oh oui.
Donc ça serait 90, ça serait 2000 à peu près. Et Ava Gardner serait morte après 2000. Elle devait être une vieille dame. Hein.
Avant.
Moi, je vais répondre, je pense que non, elles n'ont pas pu voir les Simpsons, ça doit se jouer à très peu.
Vous avez perdu.
Une mauvaise réponse. Là, j'ai imité Homer Simpson, mais je ne sais pas si on l'a reconnu. On l'a reconnu, les fans l'ont reconnu, effectivement, dans le studio, personne. Très bien. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, car oui, Greta Garbo et Ava Gardner auraient pu voir les Simpsons, mais tout juste, Ava Gardner est décédée en janvier 90, Greta Garbo en avril. Le tout premier épisode des Simpsons a été diffusé en décembre 1989. Voilà. Donc, c'est quand même à quelques mois près. Mais c'est marrant, oui, comme deux époques se rejoignent. Vous avez appris ça, plus le fax aujourd'hui, ça fait beaucoup. Nous sommes dans une situation particulière du quiz.
Nous sommes à égalité.
Vous êtes à égalité. Ce qui nous amène donc à la question numéro 5. Non, mais j'ai cru que je devais truquer, mais je n'avais pas besoin de truquer, parce que vous êtes vraiment à égalité.
Oui.
Question numéro 5, c'est la question de rapidité, les amis. Attention. Le 6 mars 1970, plus rien ne sera comme avant sur la planète Terre, puisque sort...
Let it be, let it be,
let it be. Au début de la chanson, Paul McCartney dit « When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me ». De qui parle-t-il ? Trois propositions. De sa mère, qui se prénommait Marie, de la Vierge Marie, ou de Marie de Médicis, dont Paul avait adoré le secret d'histoire présenté par Stéphane Bern.
Moi, j'ai le 2.
La vraie Vierge.
Eh bien, les amis, une fois de plus, nous terminons ce quiz par une double
C'était
mauvaise
sa mère,
réponse.
Tu crois, vous appelez Marie ?
Il parlait de sa propre mère, infirmière, morte d'un cancer du sein alors qu'il a 14 ans, et c'est elle qui lui apparaît un jour dans un rêve. McCartney raconte que son visage lui est apparu très doucement, il lui a dit d'une voix rassurante « Let it be », ce qui lui a donné le titre de la merveilleuse chanson.
Oh, belle
vous
histoire.
C'est une belle histoire. Voilà. Ouais. On a appris plein de choses grâce à vous.
C'est vraiment... Voilà. Ben oui, parfois vous pensez que c'est des petits détails, comme ça, là, vous voyez, c'est une belle anecdote.
Ouais,
quand
c'est
même.
Une belle histoire.
Et vous n'écouterez plus jamais « Let it be ».
Non, non.
Parce que moi aussi, je pensais qu'il y avait...
longtemps que vous ne l'avez pas entendu.
Comment ça, longtemps que vous ne l'avez pas entendu?
Vous l'écoutez souvent?
Ah ben oui, j'aime bien « Let it be », oui.
Ah, oui. Moi aussi,
oui,
mais...
Oui. Et il y a une très belle version de « Let it be » que je vous conseille. C'est la version d'Aretha Franklin. Écoutez-moi ça. Et elle ne sait pas du tout qu'elle parle de la mère de Paul McCartney.
Elle pense qu'elle parle de la Vierge. Et c'est qui chante
Aretha Franklin.
Ouais. Ah, c'est très beau. Hein.
C'est un cadeau.
Bon,
comme
bah
ça
bravo.
Que je vous fais.
Alors là, vraiment.
Merci, alors là, bravo.
Good point pour le...
Pour celui
le rédacteur du quiz.
C'est pas pour vous, en revanche, puisque vous avez tous les deux perdu.
Ok, mais on préfère perdre en apprenant des choses
que
gagner sans rien apprendre.
C'est beau.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui tonifie vos neurones tout en frictionnant vos zygomatiques. Un soin prodigué à quatre mains, les miennes et celles plus délicates de Stéphane Bern. Stéphane qui est aux anges aujourd'hui puisqu'on évoque la figure de Marie-Antoinette, sa reine. Bref, vous avez même un tatouage sur la fesse gauche, paraît-il, Stéphane.
Non, pas la gauche, Mathieu.
Ah,
mais aujourd'hui, on évoque en effet trois personnages de l'histoire qui, chacun à leur manière, ont fait revivre Marie-Antoinette. Après Stéphane Zweig, qui en a écrit une riche biographie, je vais vous parler d'un autre artiste qui lui a offert une seconde vie à l'écran cette fois-ci, Jacques Demy. Mais les vivants aussi, à part moi, je veux dire, s'intéressent à Marie-Antoinette, n'est-ce pas, Mathieu ?
Bien sûr, Stéphane. D'ailleurs, pour beaucoup de jeunes, Marie-Antoinette, c'est d'abord Kirsten Dunst dans le film de Sofia Coppola. Un film qui prend quelques libertés avec la vérité historique, mais qui a eu le mérite de nous faire découvrir le côté rock de Marie-Antoinette. Et puis, il y aura aussi nos chroniques avec nos enquêteurs de l'histoire qui font un sacré boulot, même si l'érotisme de certains de vos lancements les concernant, Stéphane, est difficile à comprendre.
Ils enquêtent sans relâche.
Ils enquêtent sans relâche. C'est bon, David Castello-Lopez. Vous nous racontez les origines chaque jour d'un objet ou d'une tradition. Aujourd'hui, c'est à la fois un objet et une tradition. Tradition que certains oublient un peu souvent, Stéphane, le déodorant.
Tout à fait. Enfin, c'est la tradition de vouloir sentir bon, elle vient depuis longtemps, mais on n'avait pas les moyens de le faire. Donc, depuis quand
Et puis, il s'est perfectionné parce que maintenant, il n'y a plus de sel.
Tout à fait. Il marche moins bien depuis qu'il n'y a plus de sel.
Ah oui?
Je trouve, oui.
On
ça dure moins longtemps.
Si vous
on va en parler. Ça sera un vaste débat. Ça sera la polémique du jour.
Ça concerne tout le monde. Vraiment.
Exactement.
Et puis Olivier Pouls est là pour nous parler d'une recette italienne, n'est-ce pas, Olivier?
Oui, alors pour vous démontrer aussi que dans la plus grande simplicité naît parfois le génie absolu, un plat qui n'est composé que de trois ingrédients, la pasta cacio e pepe, je vous dirai d'où elle vient, et puis je vous donnerai surtout le petit tour de main indispensable pour les réussir, parce qu'on peut franchement les louper aussi ces pâtes-là.
Encore une chronique qui ne sera pas piquée des hannetons, comme dit l'expression. Mais d'où vient cette expression, Stéphane ? Ça sera le mot de la fin.
Mais bien sûr.
Aucun indice aujourd'hui. Parfois, vous laissez un petit peu, vous me faites monter la sauce.
Quand quelque chose est piqué des hannetons, c'est qu'il n'est pas en très bon état.
Ah oui, il n'est pas en très bon état. Mais c'est pas je crois que je comprends pas le sens de l'expression en fait. Pas piqué d'un tour, ça veut dire que c'est gratiné un
ça
peu,
veut dire
non
que c'est parfait.
Ça veut dire c'est bien, voilà, ça veut dire glop.
C'est énorme.
C'est glop. Ah, ça veut c'est dire glop. Que c'est. Ouais.
C'est glop,
ça veut ouais. dire qu'il y a une notion ouais. de perfection.
Ah bah oui.
Pour moi, ça voulait dire que c'était savoureux, que c'était voyez, étonnant.
Non, on ne mange pas les hannetons.
On ne mange
pas. on y reviendra. Vous ah, inquiétez pas,
tous les
ça
jours,
va bien se passer. C'est-à-dire que, en fait, vous utilisez des expressions dont vous ne comprenez
oui,
pas le
oui,
sens.
Mais c'est pour ça que
je découvre
c'est
ça,
pour ça que hein. j'utilise assez peu, Stéphane, oui, cette expression. Bah oui, parce que justement, je n'étais pas très sûr d'en connaître le sens. Tout de suite, découvrons notre deuxième personnage qui a redonné vie à la reine Marie-Antoinette. Stéphane Bern nous raconte le cinéaste Jacques Demy.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Marie-Antoinette qui embrasse fougueusement Axel de Fersen pendant que sur le balcon juste à côté, son lourdeau de mari baille aux corneilles. Vous n'avez jamais vu cette scène, vision un poil caricaturale des relations entre les deux époux royaux. Bah c'est normal. Lady Oscar de Jacques Demy, film mettant en scène une jeune femme travestie en officier dans la garde personnelle de la reine, n'est tout simplement jamais sortie en France. Il n'en existe même pas de version française. Étonnant pour un metteur en scène aussi célèbre que Jacques Demy. S'agit-il d'un accident de parcours dans une carrière brillante ? Jacques Demy est né en 1931 en Loire-Atlantique. Il réalise ses premiers courts-métrages dans les années 50 et joue aussi la comédie. Dans son film de fin d'études, il tient d'ailleurs le rôle principal. Demy touche aussi au documentaire, tourne un film sur un sabotier du Val-de-Loire. Il assiste des réalisateurs, expérimente, il écrit et rencontre des personnalités qui vont l'influencer. L'acteur Jean Marais, d'abord, le présente à Jean Cocteau. Demy admire depuis longtemps le travail du poète et cinéaste de 40 ans son aîné. En 1957, il adapte, avec son accord, l'une de ses pièces, « Le bel indifférent ». Le monologue d'une femme folle de jalousie devant les infidélités de son amant. Les amours déçus sont déjà un thème cher au jeune réalisateur qui aime aussi passionnément une autre pièce de son mentor, Orphée, mettant en scène une Eurydice délaissée par son poète. Les années 60 marquent le début d'une série de longs métrages à succès. En 61 sort le premier, Lola, où la belle Anouk Aimée danse et chante déjà en bustier et boa noir, la caméra droit dans les yeux. Nantes, les marins, la fête sont déjà là. Proche de la nouvelle vague, mouvement de jeunes cinéastes qui entend se libérer au maximum des conventions, Jacques Demy apparaît aussi en gendarme dans les 400 coups de François Truffaut, dans Paris nous appartient de Jacques Rivette. En 1963, il réalise La baie des anges avec Jeanne Moreau et Géry de l'époque sur une musique du géant Michel Legrand. La collaboration entre les deux hommes va bientôt donner plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma français. En 1964, Les Parapluies de Cherbourg remportent la Palme d'Or au Festival de Cannes. Tout l'univers de Jacques Demy y figure. Les couleurs très vives, des parapluies qui égayent la grisaille de la vie normande, au papier peint saturé, en passant par les robes de ses actrices, dont la superbe Catherine Deneuve. Deux ans après, Les Demoiselles de Rochefort sont un nouvel énorme succès. On y retrouve cette atmosphère si particulière au film de Demy. Catherine Deneuve encore et sa sœur Françoise d'Orléac dansant dans les rues de la ville en robe courte et légère. Les tenues des acteurs comme des aplats de couleurs, les chorégraphies, les chansons qui résonnent aujourd'hui encore à nos oreilles. Nous sommes deux sœurs jumelles. Il y a déjà quelque chose de l'ordre du conte dans les costumes et dans les dialogues chantés. Le succès offre à Jacques Demy une aventure américaine. Le Français est fasciné par Los Angeles. Il part vivre quelques mois sur la côte ouest après un contrat signé avec la Columbia. Le film qui en découle, Model Shop, loin de la tonalité des deux précédents longs-métrages du réalisateur, n'est pas un succès outre-Atlantique. Malgré de nouvelles propositions, Jacques choisit de rentrer en France. Il a un projet qui lui tient particulièrement à cœur. L'adaptation du conte populaire Peau d'âne. Demy est fasciné par La Belle et la Bête, film de Cocteau qui s'inscrit dans ce même registre du merveilleux et qu'il aime projeter régulièrement à sa famille et à ses amis. Le trait d'union entre les deux œuvres, c'est Jean Marais qui, dans son rôle de roi, récite aussi des vers de Cocteau. Le rôle principal est une fois de plus attribué à Catherine Deneuve. Le film devient culte, notamment grâce aux chansons qui continuent de marquer au fer rouge le cortex de nouvelles générations de petites filles, selon les propres mots de Michel Legrand.
Préparez votre pâte dans une jatte plate.
2000 enchanteurs enchaînent avec un autre conte, Le joueur de flûte, une production anglaise. Ce sont ces expériences internationales et le souvenir des parapluies qui convainquent un producteur japonais de confier l'adaptation d'un manga à succès, La Rose de Versailles, à ce réalisateur français. Nous sommes à la fin des années 70. Jacques Demy peine à trouver les financements pour un vieux projet qu'il ne parvient pas à réaliser. Désabusé, le réalisateur confie lors d'une interview au journal télévisé que les films musicaux ne sont plus à la mode. Alors Demy accepte les 10 Oscars, tournée en France avec des acteurs anglais. L'intrigue se déroule pendant la Révolution française avec les destins croisés de deux femmes rattrapées par les grondements de la Révolution française. La jeune Marie-Antoinette, dauphine du trône de France, et Oscar, sa garde du corps élevée comme un homme par son père militaire. Un personnage réel, l'autre fictif, pour une histoire qui n'a que peu de choses à voir avec la réalité historique. Les comédiens livrent une prestation plutôt médiocre dans des décors très kitsch. Le film est un succès au Japon, mais les prétentions financières des producteurs asiatiques et le fait que Demy n'apprécie pas le rendu final de la superproduction font que le film ne sort pas sur les écrans français. Ironie du sort, les jeunes Français connaîtront les 10 Oscars par le biais d'une adaptation du manga en dessin animé, franc succès de la fin des années 80, devenu culte et diffusé dans le club Dorothée. Le film reste comme un aparté un peu étrange dans la carrière du réalisateur, même si plusieurs de ses thèmes de prédilection, comme les passions contrariées, y apparaissent. Durant la décennie 80, Demy tourne des téléfilms et plusieurs longs métrages avec Francis Huster ou Yves Montand dans son propre rôle de chanteur en fin de carrière, dans 3 places pour le 26. Jacques Demy meurt prématurément le 27 octobre 1990 du sida. Sa maladie et son homosexualité ne seront révélées que des années plus tard par sa femme Agnès Varda. La réalisatrice a consacré plusieurs documentaires à celui qui a partagé sa vie pendant de longues années et une fiction qui revient sur son enfance à Nantes. Sa version de la vie de Marie-Antoinette n'a pas entaché l'immense héritage de Jacques Demy qui continue d'influencer le cinéma. Ainsi, en 2016, La La Land, le film musical américain au succès mondial, reprenait la chorégraphie en ouverture des Demoiselles de Rochefort.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jacques Demy, nous sommes avec le critique de cinéma, quand je dis le critique, le L-E majuscule, Gérard Lefort. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Oui Gérard Lefort, vous avez été pendant 35 ans l'une des plumes brillantes et piquantes de Libération. Vous êtes critique de cinéma, fin connaisseur et grand admirateur de Jacques Demy. Vous êtes en ligne avec nous depuis le presque village préféré des Français, Pont-Neuf en Bretagne. Vous auriez quand même pu choisir à côté des parapluies Cherbourg. Mais enfin bon, Lady Oscar est une œuvre un peu à part dans la filmographie de Demy. Qu'est-ce qu'elle représente dans son œuvre? C'est une erreur, comme disent les mauvaises langues, ou une parenthèse?
Oh, c'est pas une erreur, c'est pas une parenthèse. Je trouve que c'est un film sans doute moins fameux et moins brillant que Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, etc. Ou même Une Chambre en Ville. Mais c'est pas du tout une erreur parce que on retrouve dans ce film mais des belles obsessions de Demy. Mm-hmm. C'est-à-dire son goût du conte. C'est-à-dire que la vérité historique, elle est très secondaire. Dans Lady Oscar, mais sa vision de Versailles, de la reine Marie-Antoinette, de ce personnage incroyable qui est Oscar François de Jarrail, bon, qui est en fait aussi inspiré en sous-main de l'histoire du chevalier d'Eon.
Oui, il y a la question de l'identité sexuelle qui est quand même très prégnante dans ce film.
Tout à fait, et ça c'est un des thèmes favoris de Demy, c'est l'ambiguïté sexuelle, parce qu'on ne sait plus à un moment donné dans les dialogues qui finissent par être très très drôles, on ne sait plus bonjour madame, bonjour monsieur, excusez-moi, mais non, mais qui êtes-vous? Mais finalement, je vous préférais en garçon. Enfin, il y a toute une espèce de badinage, disons, dans les dialogues, qui est tout à fait formidable et qui est tout à fait de Jacques Demy. Et puis, il y a la musique de Legrand, quand même, de Michel Legrand, quand même. Il y a les décors de Bernard Evin. Donc, tout Demy est là, même si c'est pas un sommet dans la carrière de Jacques Demy. De toute façon, moi, tout ce que fait Jacques Demy, je l'aime.
C'est un bon parti pris.
Mais est-ce que vous pensez, Gérard Lefort, que peut-être on est passé à côté d'un chef-d'œuvre avec ce film? C'est-à-dire qu'à vous écouter, c'est fantaisiste, il y a vraiment tout l'univers de Demy. Il est peut-être pas passé loin de faire un film qui aurait pu être culte comme d'autres films de Demy, finalement.
Vous avez raison, Mathieu, parce que c'est à un cheveu que ça chante.
Oui.
Et je pense que par moments, on frôle l'opérette, moi qui est un art lyrique que j'adore. Mais ma foi, il a peut-être pas osé pas faire le pas. Je ne sais pas. Les producteurs japonais ont peut-être été un peu autoritaires. Mais c'est bien dommage, voilà. Donc c'est hélas, ça n'est pas une opérette. Hélas, ça ne chante pas. Mais ça pourrait. Et puis dans sa tête, ça chante.
Mais il y a aussi un côté très demi. C'est le côté désenchanté.
Tout à fait.
Comment vous l'expliquez ?
C'est une obsession de Jacques Demy, c'est-à-dire sous la futilité, la drôlerie, etc. Il y a toujours, c'est un cinéaste très sombre, Jacques Demy. D'ailleurs, Lady Oscar se termine très très mal. L'amoureux d'Oscar meurt le jour de la prise de la Bastille. Donc, voyez, c'est ce mélange d'allégresse populaire parce qu'on prend la Bastille, symbole de la tyrannie, etc. Puis, dans le même temps, une histoire d'amour qui débutait s'achève. Alors ça, c'est très très Demy. Même les plus joyeux films de Demy, il y a toujours quand même une sorte de mélancolie, sinon de tristesse. Et c'est ça qui fait sa puissance.
Dans ce film, est-ce que Marie-Antoinette, c'est juste un prétexte ou Demy était vraiment intéressé, fasciné par le personnage de Marie-Antoinette?
Oui, il m'en avait fait la confidence et il était plus que fasciné. C'est un personnage qui... Il aurait voulu faire un film sur Marie-Antoinette tout court et non pas choisir le prétexte de cette histoire d'Oscar. Pourquoi? Mais comme un petit peu ce que vous évoquiez tout à l'heure, Sofia Coppola, c'est-à-dire, c'est pas le personnage historique, c'est la figure, c'est la fantaisie, c'est la féerie. Elle est pas loin non plus, cette Marie-Antoinette de Jacques Demy, de la princesse de Podane. On n'est pas loin, mais voilà. Tout ça n'est pas... Il faut pas aller chercher des noises à Demy en disant « Mais enfin, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Marie-Antoinette était une idiote, une méchante, une vilaine, etc. » Mais cela dit, il n'est pas très tendre avec Marie-Antoinette dans le film. Il a eu une très bonne idée. Il l'a confié le rôle à une actrice autrichienne qui s'appelait Christine Böhm, qui avait 25 ans à l'époque, donc l'âge du rôle. Et la même idée qui a été reprise dans le très beau film de Benoît Jacquot, Les Adieux à la Reine, puisqu'il a confié le rôle de Marie-Antoinette à Diane Kruger. Donc, il y a quelque chose de... Oui, c'est une Autrichienne, ça se voit. Mais moi, ça me fait penser, vous savez, à ces films que j'adore, qui se passent dans des principautés imaginaires, avec des princes imaginaires et des marquis.
Y avait ça,
voilà, voilà.
C'est tout notre univers qu'on aime avec Gérard. Il y a une chose, c'est... Ça a toujours fasciné les actrices aussi. Moi, je me souviens très bien de Michèle Morgan, qui m'avait demandé à la fin de sa vie... Elle avait incarné, dans le film de Jean Delannoy, je crois, elle avait incarné Marie-Antoinette, et elle me disait, je vous en prie, ramenez-moi à Versailles. Elle rêvait de retourner à Versailles. Bon, à la fin, elle était presque aveugle, comme vous le savez. Ça les fascinait, toutes ces actrices, d'avoir incarné Marie-Antoinette. Autant les hommes, ça les a rendus fous de jouer Napoléon, autant les femmes, les actrices, elles adoraient incarner Marie-Antoinette, non ?
Ben oui, parce que c'est un rôle en or. Et d'ailleurs, on voit qu'elle jubile. Même cette Catriona McCauley qui joue le rôle d'Oscar dans le film de Jacques Demy, on sent qu'elle se régale. Diane Kruger, elle est en extase dans le film de Benoît Jacquot. Oui, parce que c'est un personnage tragique. Et en même temps, c'est encore une fois, oui, c'est l'opérette, encore une fois, c'est une fof folle, elle est là avec ses perruques et ses robes, et puis pendant ce temps-là, c'est la Révolution française, léger détail, quoi. Oui. Donc, Sofia Coppola l'avait très 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 bien capté avec Kirsten Dunst.
Vous, Gérard, vous faites partie de ceux qui avaient applaudi le film, parce qu'il avait été eu à Cannes, hein, le film de Coppola.
Oui, moi, je trouvais que c'était un film quasi comique. Le converse au pied de la reine. Oui. Il me semble qu'à un moment donné, il y a des téléphones portables, quand même, dans un plan.
Ah oui, il y a pas d'anachronisme. Bon, 40 de la durée, mais c'est du placement de produit. Il y a des converses, et puis on se trompe, il y a quelques erreurs historiques aussi, quand la comtesse de Provence est enceinte, et j'avais demandé à Sofia Coppola, je dis, mais pourquoi tu dis que c'est la comtesse
parce
de Provence?
Parce que vous tutoyez Sofia Coppola.
Oui, mais surtout en anglais, si vous voulez, on voit pas la différence. pourquoi la comtesse de Provence est enceinte? La pauvre chérie, elle aurait adoré, mais c'est la comtesse d'Artois. Elle m'a répondu cette chose merveilleuse, mais en Amérique, chérie, Provence, ça veut dire tout le monde connaît, mais Artois, personne ne connaît. Ce qui est horrible pour notre belle province d'Artois. Mais donc, Provence, c'est tellement
plus chic. Ouais, ça sonne mieux.
Gérard, il y a une chose aussi. Jacques Demy reste et restera le maître incontesté de la comédie musicale à la française. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'héritage, de l'œuvre de Jacques Demy? Et d'ailleurs, comment on pourrait le définir si on devait expliquer à la jeune génération?
Eh bien, ce qui reste, il n'y a pas de films qui sont directement inspirés des films de Demy. Il y a très 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 peu de comédies musicales. Mmh. Sauf que j'ai appris récemment que les frères Larrieux viennent de finir une comédie musicale et rien que le titre est appétissant. Ça s'appelle Tralala. Ah bon? Mmh. Alors allons voir Tralala. Donc c'est directement un hommage à Jacques Demy. Et je pense que le cinéma de Jacques Demy, dans son esprit, a infusé beaucoup 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 de films, mais pas simplement des films français. Et c'est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est une manière joyeuse et gaie de prendre les choses, et en même temps d'avoir les yeux en face des trous et dire que oui, le réel est souvent beaucoup plus décevant que la fiction. Donc c'est ça qui a le nombre de qui, enfin ils l'avoueront jamais, mais le nombre de cinéastes français, il y en a qui l'avouent, comme André Téchiné, qui est un fan et un admirateur fou de Jacques Demy. Mais oui, c'est tellement inédit dans l'histoire du cinéma français, là, c'est pas une parenthèse, ou alors c'est une parenthèse enchantée, le cinéma de Jacques Demy, que bien sûr ça a influencé, et encore aujourd'hui, des jeunes générations, ce type qui avait fait 120 battements, Valère Campillo, bon, qui était, c'est un fou et un fan, je le connais un petit peu, de Jacques Demy. S'il avait pu, il l'aurait fait chanter, mais bon, sur le sujet du sida et d'acteurs, c'était un peu difficile.
Mais parce que c'est vrai que les films de Jacques Demy, on chante quand on les regarde, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de fredonner, en tout cas. Vous-même, Gérard, vous chantez devant un film de Jacques Demy. Vous n'êtes pas dans une posture passive face à un film de Demy.
Écoutez, il est arrivé dans ma vie un événement extraordinaire. La première fois que je vais, petit garçon, seul au cinéma avec l'autorisation de mes parents, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Ah. Donc vous imaginez le bol de ma vie. Je peux le dire, c'est la chance de ma vie. Sauf que tout l'été, j'ai emmerdé mes parents parce que je chantais tout ce que je faisais. Donc je chantais, passe-moi le sel, je veux du lait dans mon café. Mes parents ont failli m'étrangler à juste titre.
Oh, c'est vrai. On aurait été privé d'un grand critique.
Merci, vous êtes adorable. Mais c'est vrai que quand on regarde les films de Jacques Demy, on est sidéré, quel que soit son âge et sa génération. En ces temps qui sont difficiles, comme vous le savez, eh bien, grâce à vous, j'ai réécouté la chanson des Sœurs Garnier, Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, dans Les Demoiselles de Rochefort, la chanson d'un bel été. Eh bien, vous savez, les paroles, et puis évidemment, je me suis mis à chanter. Mais quand on vous chante, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Voilà. Oui, je trouve que c'est une prescription homéopathique. On devrait l'avoir dans la pharmacie.
Excellente pour les temps que nous vivons. En tout cas, merci Gérard Lefort. C'était une joie de parler de Jacques Demy avec vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont fait revivre Marie-Antoinette. Après Jacques Demy et Stéphane Zweig, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'une réalisatrice hollywoodienne, Sofia Coppola, qui a tenu elle aussi à nous livrer sa vision de Marie-Antoinette. Une vision qui, disons, a plu ou déplu. Pour certains, ont été choqués. Moi, j'avais plutôt bien aimé.
Non, Stéphane, vous aviez été extrêmement choqué à l'époque. Ça m'arrange par rapport au début de ma chronique, qui est une fiction. Vous aviez été extrêmement choqué à l'époque, puisqu'il avait fallu, à la suite de la projection, vous placer sous une tente à oxygène. En reprenant vos esprits, 3 défibrillations plus tard, vous auriez déclaré « c'est comme si on l'avait tué une deuxième fois ». Pourquoi une telle polémique autour de Marie-Antoinette de Sofia Coppola? Peut-être ce parti pris de casser tous les codes du film d'époque et de faire danser la reine sur The Cure entre 2 séances de shopping avec ses dames de compagnie que Coppola nous présente carrément comme ses personal shoppers avant l'heure dans un Versailles où tout le monde parle anglais avec l'accent ricain. Oui, même si Stéphane en a fait un ulcère, Sofia Coppola a sauvagement dépoussiéré Marie-Antoinette pour en faire une icône pop, sexy, ok? Un peu superficielle aussi peut-être, mais qui ne l'est pas, hein Stéphane?
Ah ça, j'adore les mâles, Vuitton.
Vous voyez, on a tous un côté bling. Sofia, elle, l'assume. Et puis entre nous, ça lui fait pas de mal à la mère Antoinette, ce petit relooking. Avant le film de Coppola, Marie-Antoinette, c'était quoi? Un portrait un peu jauni d'une Autrichienne avec un balai dans le cul, dans un livre d'histoire de 5e, un spectacle pyrotechnique trop long à Versailles avec des intermittents moyennement impliqués, la voix off de Stéphane Bern et le personnage du comte de Fersen qui avait oublié de fermer sa braguette. Bonjour la magie. Non, longtemps le personnage de Marie-Antoinette a été aussi peu excitant que ce menuet en ré mineur de Lully, jusqu'à ce que Sofia Coppola s'en empare pour en faire une reine rock'n'roll. Une reine enfin dépeinte comme une femme, avec ses questionnements de femme, ses désirs.
Mais ça me dégoûte.
Ne soyez pas vieux jeu. vieux, Stéphane. Ne soyez pas vieux jeu. D'autant que Sofiane n'a pas fait complètement n'importe quoi. Elle dit s'être basée sur la biographie de l'historien Antonia Fraser, Marie-Antoinette, The Journey, un récit ultra détaillé et documenté qui donne à voir la reine sous un jour différent, plus intime. Sofia Coppola avait même écrit à cette historienne en lui disant, je cite, « Je serais capable d'exprimer ce qu'une jeune fille ressent face à la grandeur d'un palais, à l'abondance et à la démesure des vêtements, des fêtes, son rapport à la rivalité, le fait de devoir grandir au milieu de tout ça. » Et pourquoi, selon vous, Sofia se sent-elle si proche de Marie-Antoinette? Quel est donc leur point commun?
Elle faisait un 95B.
Non, Stéphane. Sofia est aussi agrandie dans une famille puissante, richissime et célèbre. Un monde un peu déconnecté des réalités, car oui, vous l'avez deviné, je n'entretiens pas le suspense plus longtemps, elle est la fille de Francis Ford Coppola.
Non, c'est vrai?
Mais si, Stéphane, je vous l'annonce en exclusivité sur Europe 1, même que son cousin, c'est Nicolas Cage. Allez, quelques fun facts pour faire jeune, comme Castello Lopez, qui pense qu'en distillant des fun facts avec des mots d'ado, on aura moins 40 ans. Non, 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 mon vieux, t'échapperas pas à la première coloscopie. Sofia Coppola est née le 14 mai 71. Dès ses 1 an, son père l'a fait tourner dans Le Parrain. Elle sera à l'affiche d'une dizaine de films, mais en 90, son interprétation de Marie Corleone dans Le Parrain 3 lui vaut une distinction dont elle se serait passée, le Razzie Award de la pire révélation de l'année et du pire second rôle féminin. Elle décide de stopper net sa carrière de comédienne. Dommage, hein, parfois à force de travail on s'améliore. On pense notamment à la carrière de comédien de Stéphane, qui lui aussi avait failli tout arrêter après son premier rôle dans Attrape-moi la liane, un remake érotique de Tarzan.
Oh, j'ai fait mieux, non?
Et qui a bien fait de s'obstiner, puisqu'aujourd'hui, il y a meurtre en Lorraine. Sofia, elle, abandonne et papillonne durant quelques années. Elle sera tour à tour photographe chez Vogue France, assistante de Karl Lagerfeld chez Chanel, confirmant la théorie selon laquelle s'appeler Coppola permet d'avoir des stages de troisième un peu plus cool que si tu t'appelles Bakayoko. Coucou les pauvres. Mais ce monde de glamour et de paillettes ne suffit pas à Sofia, qui le sait, ça coule dans ses veines, est une artiste. C'est donc finalement assez naturellement qu'elle se tourne vers la réalisation et ce thème qui va devenir son obsession, l'adolescence. Période charnière où les jeunes filles découvrent l'indépendance et la solitude aussi. Et dans son traitement de l'adolescence, Sofia se démarque très clairement de la série Premier baiser dont vous entendez le générique avec son premier film Virgin Suicide. Succès unanime, voilà Sofia propulsée réalisatrice la plus cool de sa génération. Suivront Lost in Translation, puis donc le plus clivant Marie-Antoinette. Là encore, c'est le fait que cette reine ne soit en fait qu'une ado perdue dans un palais trop grand pour elle qui fascine. Elle se documente et découvre l'impensable. Marie-Antoinette a débarqué en France à seulement 14 ans et son mari ne l'a pas touchée pendant près de 7 ans. Vous vous rendez compte, Stéphane, de l'abnégation qu'il faut pour endurer ça?
3 jours sans faire l'amour et c'est le mal de tête garanti.
Et voilà, vous n'auriez pas tenu aussi longtemps. Alors, bien sûr, s'attaquer au personnage de Marie-Antoinette quand on est une jeune californienne, ça fait grincer des dents. Alain Delon, qu'elle avait imaginé en Louis XVI, lui fait comprendre gentiment que ça sera sans lui. Je le cite, ça sera sans lui. Peut-être n'avait-il pas envie d'interpréter un roi timide, fadasse et ramolli.
À cause de sa seule couille.
Oui, Stéphane, on aura tous les détails avec vous. Sofia ne se décourage pas et mène à bien ce projet titanesque, puisque tenez-vous bien, elle aura droit de tourner à Versailles pour la modeste somme de 15 000 euros par jour, des conditions très strictes, ne toucher à rien, changer tous les meubles, mettre des tapis partout pour ne pas abîmer le parquet. La seule fois où j'ai vu un propriétaire aussi chiant, c'était quand j'avais loué une villa à un animateur télé français à Paros sur Airbnb, déclarera la réalisatrice. Alors ça, c'est une connerie que j'avais écrite dans ma chronique. Oui. Stéphane me dit hors antenne
que c'est là que j'ai connu Sofia Coppola, puisqu'elle avait loué la maison à côté de la mienne.
C'est vraiment le monde des stars internationales est vraiment un tout petit monde.
Elle est charmante.
Elle est charmante, ça, j'imagine. Oui. J'imagine.
Mais j'avais vraiment interrogé sur tous les problèmes historiques dans le film. Quand
même. Ah oui, vous l'avez un peu mis
sur
une petite lacune
du film. D'accord.
Alors, le résultat, un film aux couleurs saturées où Kirsten Dunst, Marie-Antoinette, donc va de fête en fête dans un Versailles grandiose, saupoudré d'anachronismes tendance, croquant des macarons la durée sur une musique des Strokes. Lully se retourne dans sa tombe, Alain Decaux remeurt. Le film est hué par les journalistes à Cannes. Certains évoquent, je cite, non pas un film, mais un numéro spécial de Vogue consacré aux coulisses de Versailles. D'autres soulignent que 2 heures pour assister à un clip musical où les rares fois où les personnages parlent, c'est pour comparer la qualité de leurs étoffes, c'est un peu long. Critique irrecevable selon moi, puisqu'ici même, dans Historiquement Vôtre, nos plus passionnantes discussions hors antenne avec Stéphane portent sur les vêtements et les matières. Et oui, c'est palpitant. Netflix, on peut vous l'avouer, nous a contactés pour négocier les droits de ces bouleversantes tranches de vie. Écoutez, franchement, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Sofia Coppola?
Toujours aussi froid dans ce studio.
T'as froid?
T'as pas froid? Ah non, toi, t'as...
Non, moi, j'ai jamais froid.
Moi, je peux pas mettre de laine.
Ah oui, vraiment?
Oui.
Mais aucun pull?
Non, c'est pour ça que j'ai toujours des sweats. Je suis obligé de mettre un truc un peu chaud, mais je peux pas si je supporte pas même le cachemire.
Et donc, jamais de col roulé?
Et non, alors que j'adorerais, parce que je trouve ça très beau, les col roulés. J'ai essayé d'en acheter un l'autre jour, mais même en synthétique, j'arrive pas à le mettre.
Bon, je vais remplir ma gourde.
Allez remplir votre gourde, c'est passionnant. Et en plus, il y a une chute. Je dis, mais que reste-t-il à Sofia Coppola, Stéphane ? Parle-lui de notre projet.
Mais
c'est quand même autre chose
vais.
Que son mari Antoinette.
Merci Mathieu. Là, c'était 100% vrai.
C'est 100% vrai, puisque je ne savais pas, mais vous avez effectivement connu Sofia Coppola à Paros.
À Paros, oui. Exactement.
Le monde est si petit.
Eh ben bravo.
Pas tous les mondes ne sont aussi petits que celui-là.
C'est le monde de Stéphane et de Sophia.
Non mais c'est vrai, bon voilà, elle a fait un très joli Marie-Antoinette qui est portrait d'une future Diana, vous voyez, c'est le thème qu'elle a voulu garder dans son appréciation de
Marie-Antoinette. Mais elle savait parfaitement qu'elle faisait pas une biographie pointue de Marie-Antoinette, évidemment.
Mais c'est très respectable aussi.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et maintenant, les amis, voilà un garçon qui sent bon. Et pour cause, il a mis son déodorant. Mais depuis quand met-on du déodorant, David Castello-Lopez ?
C'est vraiment une des grandes injustices de la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sentent mauvais et d'autres, ils sentent bon. Moi, par exemple, je sens bon. J'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Et je veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que personne dans Historiquement Vôtre ne sent mauvais. Ah. Alors, il faudrait pour le confirmer que je m'approche de vous, mais à cause du Covid, je peux pas. Et c'est dommage pour vous, surtout parce que vraiment, je sens super bon. Et ça vous ferait très plaisir. Bon, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on sent mauvais, hein, voilà. Eh bien, parce que on transpire. Mais attention, ce n'est pas la sueur elle-même qui sent mauvais. La sueur, ça sent pas grand-chose, ça sent la Contrex un peu, voyez, pas beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on a tous sur le corps des bactéries qui, pour faire simple, mangent notre sueur. Et en faisant ça, elles isolent des substances chimiques dont certaines ont deux caractéristiques. Un, elles sentent pas top. Et deux, elles sont très volatiles. Ce qui fait qu'elles voyagent dans l'air et qu'on peut les sentir de loin. Et donc, les produits, pour ne pas sentir mauvais, ils ont tous en commun d'agir sur les phénomènes que je viens de décrire. Et en particulier sur la transpiration elle-même, puisque si les bactéries n'ont pas de sueur à manger, eh bien, elles ne peuvent pas fabriquer les substances qui sentent mauvais. Alors, les produits qui permettent de limiter la transpiration, on appelle ça des antitranspirants. Et l'écrasante majorité des antitranspirants, ils sont faits à base de sel d'aluminium. J'en parlerai un petit peu plus tard. Sel d'aluminium dont on s'est rendu compte au début du XXe siècle qui pouvait bloquer la production de sueur chez les gens. Le premier antitranspirant, il a été commercialisé en 1903 aux États-Unis sous le nom de Everdry, qui veut dire toujours sec. Mais le problème, c'est que Everdry et les autres antitranspirants du début du XXe siècle, ils étaient trop acides. Donc certes, on sentait pas mauvais, mais ça faisait sous les aisselles des espèces de plaques qui piquaient et qui brûlaient. Ce qui est peut-être un peu cher payé pour juste ne pas sentir mauvais, surtout quand on sent bon comme moi. Voilà. Mais dans les années 40, il y a un monsieur américain avec un nom français qui s'appelait Jules Montagnier, qui a trouvé une façon de diminuer l'acidité de la formule tout en gardant son pouvoir antitranspirant. Et son invention, elle a été utilisée pour commercialiser aux États-Unis le premier antitranspirant moderne qui s'appelait Stopette. Comme toujours, il y a eu des pubs à la télé avec un slogan qui a marqué beaucoup de gens aux États-Unis.
At your favorite drug or cosmetic counter, ask for Stopette spray deodorant.
There goes perspiration.
Dans votre pharmacie ou votre magasin de cosmétiques, demandez Stopette déodorant en spray. Pouf, there goes perspiration. Pouf, la transpiration s'en va. Alors, depuis, il y a eu des controverses sur l'utilisation de l'aluminium dans les déodorants. Il y a des gens qui disent que ça donnerait le cancer du sein, ou que ça donnerait Alzheimer même. Mais j'ai été surpris parce que j'ai vérifié les études sur la question. Et ben en fait, tout ça, c'est probablement pas. En fait,
il y a pas foutre des sels d'aluminium.
Il y a pas de preuve scientifique que l'aluminium présent dans les antitranspirants donne le cancer ou Alzheimer ou pas. Il y en a pas. Voilà. Tout ce que ça.
En même temps, on rappelle votre partenariat avec Rexona qui vous sponsorise. Hein, ça, il faut quand même le dire.
Non, tout ce qu'on voit, c'est qu'on se retrouve avec un peu plus d'aluminium dans le corps. Ça c'est prouvé, mais pas que ça donne le cancer du sein ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Reste que si on a quand même peur. Il y a des déodorants sans aluminium, mais attention, ce sont pas des antitranspirants.
Non.
Ils n'ont aucun effet sur notre transpiration. Ils agissent en gros de deux façons, soit en tuant les bactéries qui mangent notre sueur, soit en rendant l'environnement où ces bactéries évoluent inhospitalier parce que trop salé ou trop acide. Moi, par exemple, j'utilise un déodorant sans aluminium qui s'appelle Axe Marine. C'est un déodorant dont beaucoup de gens considèrent qu'il est cheap. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur moi, ça sent super bon. C'est-à-dire que je sens tellement bon que sur moi, un déodorant à 3 euros, ça devient du Chanel. Voilà, comme ça, je suis désolé, c'est comme ça.
Quelle chance.
Il a beaucoup de chance. Vous êtes plutôt sans aluminium ou
Weleda.
Ah, Weleda. Ça, c'est 100%
naturel. C'est 100%
naturel,
le citrus. Et ça sent le citron. Et
vous sentez,
et vous sentez bon.
Mais ça, je peux le dire, nos auditeurs, Stéphane Bern sent toujours bon.
Non, mais c'est important parce que c'est
chic jusqu'au bout.
Non, mais c'est des odeurs gênantes. Dans le métro, parfois, on est dérangé, même avec un masque maintenant.
Oui. C'est pour ça que moi, je préfère me déplacer en deux roues comme ça. Je ne m'embarrasse que moi-même.
Vous savez, quand est-ce que la première fois on a essayé de masquer les odeurs? J'imagine, c'est depuis que le parfum existe.
Ah oui, ça, c'est immense. C'est immensément ancien, mais ça marche pas très bien parce que vraiment, enfin.
Oui, que les deux odeurs se mélangent.
Voilà, 60 odeurs se mélangent, ou alors en fait, l'odeur sur qu'on met par-dessus est tellement forte.
Et ça reste sur les vêtements, surtout. Les vêtements imprégnés d'odeur. Enfin, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site
Europe 1.fr. Et maintenant qu'on a pensé à toutes ces petites bactéries qui macèrent sur nos aisselles, on a forcément faim, on a envie de prendre. On a envie de penser au dîner. Avec vous, Olivier Pouls, vous nous parlez des pâtes. Alors attendez. Je vais le dire avec l'accent, parce que moi, quand même, je suis un peu italien quelque part aussi, puisque je suis un quart corse. Cacio e pepe.
Bravo.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
En ces temps où on ne peut plus prendre l'avion, on ne peut plus se déplacer, sauf pour motifs essentiels, on ne peut pas aller en Italie, heureusement.
Mais pour lui, c'est essentiel.
Si on ne peut pas aller en Italie, l'Italie, elle, peut venir à nous par le biais d'Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Aujourd'hui, l'histoire de la recette des pâtes cacio e pepe.
Oui, et si j'ai bien compris, tout à l'heure, notre ami Stéphane ne savait pas ou ne sait pas ce que sont ces pâtes cacio e pepe.
Non, je le confesse.
Alors moi, je vous avoue que je les ai découvertes lors d'un voyage à Rome. J'avais commandé ça, ne sachant pas exactement ce que j'allais trouver, il y a quelques années. Et j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Et quand j'ai demandé au serveur quel était le secret, il m'a juste répondu « du pecorino, du poivre et basta ». C'est vraiment l'expression la plus simple de la cuisine italienne, mais aussi la plus géniale. Parce que il ne faut que 3 ingrédients, en réalité, pour réaliser ce plat. Mais surtout, il y a un tour de main. Alors, c'est un plat traditionnel de la cuisine romaine, de la cuisine du nord de l'Italie. Le fromage qu'on utilise, qui est du pecorino, qui est donc un fromage de brebis à pâte pressée, est un fromage qu'on connaît depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, les paysans en emportaient souvent un petit morceau avec eux, parce que c'est un fromage qui servait essentiellement de condiment. C'est pas un fromage qu'on mangeait comme ça, parce que quand il séchait, il avait un goût extrêmement puissant.
On le trouve surtout avec de la truffe quand on l'achète au marché.
Ça, c'est dans le 9e arrondissement de Paris, Stéphane.
Mais ailleurs,
je vais faire une petite parenthèse. N'achetez jamais le fromage de pecorino avec la truffe, parce que ce sont des arômes de truffe qu'on met dedans. C'est pas très bon. Et mieux vaut avoir de la truffe et du pecorino, mais le fromage à la truffe, il faudrait interdire ça. C'est 9 fois sur 10, que dis-je, 99 fois sur 100, pas bon.
Olivier, oui, vous avez raison, c'est 99% vrai ce que vous dites, mais Stéphane me signale finement que dans la fromagerie où il se fournit, c'est de la vraie truffe, hein, ce n'est pas un parfum, mais continuez.
Écoutez, vu comme ça, pourquoi pas? Alors, il vous faut le 3e ingrédient, c'est du poivre noir, et puis évidemment des pâtes, et on utilise le plus fréquemment des spaghettis. Alors, le secret pour réaliser ce plat, c'est d'abord la cuisson des pâtes. Il y a un petit moyen mnémotechnique assez facile à retenir pour la cuisson des pâtes. Pour 100 g de pâtes, 1 litre d'eau, 10 g de sel. Et ça, c'est la proportion exacte pour avoir une cuisson des pâtes parfaite. Donc là, pour 4 personnes, on va prendre un petit peu plus. On va prendre 400 g de pâtes, donc 4 litres d'eau et 40 g de sel. On va prendre du pecorino. Il y en a plusieurs sortes d'appellations d'origine contrôlées. Celui que j'aime bien, c'est le Toscano, par exemple. Pecorino Toscano, ça se trouve chez les fromagers français. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Italie pour en trouver. Vous le prenez râpé. Et un bon poivre noir, par exemple, le poivre Kampot du Cambodge, qui est un poivre qui est assez musclé, on va dire, qui est un peu piquant.
Le poivre Pol Pot?
Non, Kampot, pas Pol Pot, Kampot.
Ah, vous m'avez fait peur.
Et donc, l'astuce, c'est donc dans une poêle, pendant que vos pâtes sont en train de cuire dans l'eau, c'est de faire fondre le pecorino, de rajouter le poivre que vous aurez bien concassé, et puis de rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes, parce que cette eau, elle contient l'amidon que les pâtes ont relargué, et c'est cette eau qui va réaliser la liaison de la sauce et qui va permettre d'avoir ce côté onctueux et crémeux. Donc, il vous faut une petite louche, une demi-louche, entre une demi-louche et une louche, d'eau de cuisson des pâtes que vous allez délayer tranquillement dans votre pecorino. Une fois que vos pâtes sont cuites, vous les égouttez, vous les remettez dans la poêle et vous les enrobez bien avec cette sauce fromage et pecorino. Il faut vraiment que les pâtes soient vraiment enrobées de sauce, que la sauce vienne se coller dessus. C'est ce qui va donner évidemment toute l'onctuosité à ce plat, fort en goût parce que vous avez le côté vache, le côté brebis, par contre le côté ferme de ce fromage, et puis le poivre qui vient un petit peu vous arracher la bouche. Et là, c'est pure merveille quand c'est parfaitement bien réalisé.
Vous êtes d'accord que c'est une recette simple à trois ingrédients, mais qui est facilement ratable aussi, Olivier Pouls. Vous l'avez bien expliqué, ce tour de main qu'il faut pour la réussir.
Voilà, ce qui est ratable, c'est la cuisson des pâtes. En France, on ne sait pas bien cuire les pâtes. On met généralement trop peu d'eau. Or, pour que les pâtes soient parfaitement cuites et qu'il y ait un point d'équilibre qui se passe côté al dente, mais en même temps qu'elles ne collent pas entre elles, il faut un volume d'eau précis. Je vous le redis, pour 100 grammes de pâtes, 1 litre d'eau, et vous ne raterez plus jamais la cuisson de vos pâtes.
Plus jamais vous ne raterez la cuisson des pâtes. Vous savez maintenant pourquoi vous écoutez Historiquement Vôtre. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Des recettes souvent pas piquées des hannetons, Stéphane.
Absolument, et c'est mieux. Ça veut dire qu'elles sont excellentes. Mais d'où vient cette expression? Je vous le dis dans un instant.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Qu'est-ce que je serais sans vous, Stéphane? Pas grand-chose, je vais vous dire, parce que tout à l'heure, on évoquait le thème de votre chronique du jour, hein, chaque jour, l'origine d'un mot, l'origine d'une expression, pas piquer des hannetons. Eh bien, franchement, j'ai réalisé que j'avais mal compris cette expression. Pour moi, ça voulait dire quelque chose de gratiné, d'amusant, de sensationnel. C'est pas du tout ça, en fait.
Non, vous voyez, c'est quelque chose de qualité, c'est très positif quand c'est pas piqué des hannetons. Je vous explique l'origine. Au XVIIe siècle, une autre expression du même genre fait son apparition. Quand un meuble est en parfait état, quand son bois est d'une qualité comparable à son état d'origine, c'est donc qu'il n'a aucun petit trou à la surface, il n'a donc pas été piqué par des vers, on dit alors qu'il n'est pas piqué des vers. À cette époque aussi, on disait piquer des vers pour désigner des vêtements qui étaient rongés par des insectes, qui étaient mités, si vous préférez. Le hanneton est surtout connu pour avoir fait des ravages aux récoltes, aussi bien à l'âge adulte qu'à l'état de larve. Petit conseil pratique d'ailleurs au passage, pour éviter d'avoir trop de hannetons dans votre jardin, biner et bêcher pour retourner la terre, vous ferez des heureux, notamment les merles et les grives.
Bon, parce que sinon, oublie souvent de biner, Stéphane.
Sinon, vous pouvez utiliser vos insecticides préférés et vous empoisonner la nature et vous-même, et comme ça le problème sera réglé. Mais revenons, si vous le voulez bien, à nos hannetons. Extrêmement voraces, si on les laisse faire, ils font des trous dans les plantes et se régalent des céréales. Dès lors, ce qui est pas piqué des hannetons, eh bien, est exempt de défaut. En allemand, pour quelque chose de parfait, on dit « c'est pas du carton ». En anglais, on préférera dire « there are no flies on you », il n'y a pas de mouches sur toi. C'est vrai que si on a plusieurs sur vous, là, je crois qu'il est temps de s'inquiéter.
On reparle d'odeur à ce moment-là. Et vite, on sort le pchit de David Castello. Où c'est qu'on est mort, effectivement, ça... C'est l'autre option aussi. Mais j'étais plus optimiste que vous. Oui, je pensais juste que vous sentez mauvais. Me dites, vous êtes mort. Très bien. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Un des plus émouvants pour Stéphane, puisqu'il était consacré à ces hommes et ces femmes qui ont perpétué la mémoire de sa reine préférée, Marie-Antoinette. Est-ce que vous l'aimez plus Marie-Antoinette que la reine Elisabeth II? Et par rapport à la grande-duchesse de Luxembourg?
Rien n'est au-dessus de la grande-duchesse.
Ah non, il n'y a personne.
Il y a vous l'aimez Dieu bien, et la grande-duchesse.
Dieu et la grande-duchesse. Oui. Très bien. C'est comme ça quand on est citoyen luxembourgeois.
Ah oui, nous, j'aimerais que les autres le soient aussi. Mais bon, je dois être l'un des rares.
Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner le programme de demain, Stéphane?
Oui, demain, voyez-vous, mon cher Mathieu, on réunit de sacrés monstres. Des monstres célèbres de la littérature. La créature du docteur Frankenstein. Le comte Dracula, qui était inspiré d'un personnage bien réel, vous verrez. Et follement sympathique.
Oh, et lui aussi, il aurait pu être inspiré d'un personnage bien réel que vous connaissez, qui aime beaucoup les pattes Cacio et Pépé. C'est Shrek, vous savez, l'ogre de Dreamworks.
Ah oui,
à demain.
Oh, j'ai hâte. À demain, Mathieu. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.